Donc, le livre de Dina, point de départ, que c'est, ça vient d'être dit dans la communication avant d'Angélique, et puis vous en avez reparlé avec Marianne, c'est quand j'ai lu l'appel à contribution Amazon, pour moi, ce qui indiquait principalement, c'était la liberté d'action, le fait d'agir, le fait de choisir. Donc après, c'était est-ce que dans les livres que je trouve qui sont peut-être lecture fétiche pour moi, mais qui sont aussi que je trouve qui sont intéressants pour en faire qu'il faudrait en parler, et où je trouve de la liberté d'action dans une communauté de femmes ou quelques individualités qui construisent une communauté. Donc j'ai choisi, parce que je trouve dans ça, le livre de Dina. Le livre de Dina contient les trois premiers tomes d'une saga donc de Herbert Boisemont, qui contient après cinq autres livres, six, mais qui dans la traduction française ont été publiés en cinq. Et j'ai découvert, donc puis ce qui vient de sortir là en traduction française, le Testament de Dina, donc encore un tome là, septembre 2018. Mais je vais me baser que sur les trois premiers tomes parce que le discours que je fais là, ça vaut seulement pour les trois premiers tomes. Si je réussis dans les 20 minutes ou 22 minutes, je vous parlerai pourquoi ça vaut pas après pour les dynamiques internes du roman liées au personnage, mais donc on verra. Donc, première chose, donc l'histoire se déroule au nord de la Norvège au 19e siècle, à Reisnes, riche domaine commercial de la famille Grønnelv. Le domaine est un comptoir où l'on vient surtout en bateau pour se fournir de différents biens et surtout des produits de la pêche. Une auberge accueille par la nuit les clients voyageurs. Le chef du domaine, Jacob Grønnelv, possède aussi deux caboteurs qui sillonnent les côtes norvégiennes, permettant l'achat, le transport et la vente des marchandises d'un comptoir à l'autre. Enfermé entre la montagne et la mer, Reisnes reste isolé géographiquement, surtout par mauvais temps. La vie de la propriété des Grønnelv se déroule comme celle d'une petite communauté gérée par la famille Grønnelv, comptant une centaine de personnes. Dina, donc le personnage principal des trois premiers tomes, y arrive à 18 ans comme femme de l'armateur veuf et chef de la communauté Jacob Grønnelv. Donc déjà, toute sa vie, c'est lié au fait qu'il arrive dans cette communauté comme femme du chef de la communauté. Si c'était arrivé femme d'une simple métayer ou agriculteur ou pêcheur, ça aurait été pas le même destin. Même dans ce que puis comme je vous raconte Dina, elle aurait peut-être pas survécu à cette communauté. Enfant négligé par son père, qui la tient pour responsable de la mort de sa mère, Dina grandit à sa guise, rebelle, et ne se laisse jamais emprisonner dans quelque convention que ce soit. Les personnes ne comprennent pas ses comportements. Dans la propriété du père, régie par des valeurs traditionnelles strictes qui modèlent les personnes dans leur rôle communautaire, les regards de réprimande et les jugements négatifs envers Dina s'accumulent. C'est une caractéristique dans les qualités plus littéraires, c'est qu'on répète, il y a une accumulation autour du personnage de Dina jusqu'au moment qu'elle devienne elle, chef de la communauté. Dire il faut pas que tu fasses ça, tu peux pas faire ça, ça, les femmes ne le font pas. Il y a une phrase aussi pour un moment que le commissaire n'en peut plus, ce commissaire de police, le père de Dina, qui n'en peut plus de sa fille et qui est contente qu'il s'est marié ailleurs. Donc, pour arrêter une dispute, je cite, et dit le commissaire avait des principes bien établis sur la manière de traiter les domestiques et les femmes. Donc, domestiques et femmes à côté. On devait leur parler comme à des chiens intelligents, mais si cela ne suffisait pas, il fallait garder le chien à l'aise. Alors, on s'adressait à l'individu comme un cheval intelligent. Donc, ça, c'est pour définir dans cette communauté, en tout cas, comment était déjà la relation homme et femme. Et le fait que Dina, par contre, lié au fait que par un accident, tue sa mère, elle est vue comme coupable de ce geste aussi parce que ça porte une crise dans la communauté du père. Et donc elle est mise tout le temps rejetée à côté. Et donc en quelque manière, elle s'est construite déjà pour essayer de survivre dans cette manière de s'isoler parce que donc elle développe toute une pour se sentir bien, aller dans la nature, faire des promenades à pied, à cheval, essayer de s'échapper de là où se sent que indiqué comme coupable. Mariée très jeune, donc à Jacob Gronelf, elle deviendra la gestionnaire du domaine après être devenue veuve. C'est elle-même qui tue son mari. Après le mariage, Dina plonge dans la relation avec Jacob en lui demandant des actations constantes. Jacob la fuit en cherchant une amante plus normale, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne fasse pas de la musique et qui s'exprime et se comporte comme une femme. Un jour, en rentrant de chez son amante, Jacob a un accident et sa jambe commence à putréfier à cause d'une gangrène. Dina décide de l'accompagner chez un médecin, mais en route, elle le pousse dans un précipice. Veuve, elle traversera des passions brèves et charnelles et de longs moments de solitude et de silence, jusqu'à l'arrivée d'un étrange voyageur, Léo, qui apporte avec lui l'amour, dévorant et obsessionnel, mais aussi et surtout la douleur de l'absence. Parce que Léo alternera de brefs séjours chez Dina pour puis repartir vers d'autres destinations et sans jamais donner de nouvelles. Le fait c'est que Dina, pendant ses 3 premiers tomes, et puis elle le fera après, elle rêve de voyages. Mais elle, donc, au départ, comme femme de l'armateur, n'a pas droit de voyager, mais et après, même si elle devient chef de la communauté, se sent responsable de cette communauté. Donc, elle va pas voyager. Mais son amant, son amour, elle reste quelques mois avec elle, ou quelques semaines surtout, et puis elle repart une année entière. Donc, elle décide de le tuer aussi. Ou peut-être elle ne le décide pas directement, mais quand même, c'est elle qui le tue. Son sens, donc elle est vue comme une tyranne au départ qui prend la gestion de la communauté. Et mais d'un mon point de vue, cette tyrannie, c'est aussi une manière de rester libre. Parce que pour 2 raisons, donc d'un point de vue professionnel, ou en tout cas lié à comment pour gérer la communauté. Dans son adolescence, elle se passionne par les mathématiques et devient plus forte que son frère Nils en comptabilité. Quand elle arrive chez son mari, Jacob Gronelf, il y a déjà 2 demi-frères. L'un qui travaille sur les bateaux comme armateur avec Jacob Gronelf et l'autre Nils qui s'occupe de la comptabilité et de la gestion des affaires. Et elle découvre que Nils vole de l'argent et surtout qu'il est pas très fort dans son travail et qu'elle par contre est beaucoup plus fort elle est beaucoup plus à l'aise avec la comptabilité et pourrait faire développer beaucoup plus la communauté. Comment faire pour faire ça? Il doit l'éliminer parce que c'est un homme et il n'aurait aucune possibilité si. Donc d'un côté le menace de rendre de le dénoncer pour tout l'argent qu'il a volé. Mais en plus, Nils séduit et fait tomber enceinte Stine, qu'une femme lapone que Dina a accueillie chez elle. Et Nils ne veut pas reconnaître l'enfant. Donc, pour ces 2 raisons, Dina le pousse au suicide. Et donc, Nils se suicide. Du début, on sent dans l'histoire la lutte constante entre Dina et les autres et l'inévitabilité de ce meurtre. Mais elle restera quand même hantée de ses victimes. À la fin, progressivement, quand le commerce se prospère toujours plus sous le commandement sous la gestion de Dina. Et surtout, on comprend, les différentes personnes du domaine comprennent qu'elle a peut-être commis les meurtres, mais elle voit que quand même elle gouverne dans une manière plus juste et de l'autre côté, que ça porte la richesse. Donc, elle acceptait. Autre chose, pour finir sur le personnage de Dina, qui est consciente dans une manière distanciée des caractéristiques féminines que les hommes cherchent dans des femmes. Et par exemple, elle commence progressivement à accompagner pour des premiers voyages l'autre demi-frère, Anders. dans des voyages de commerce et peu à peu Anders lui laisse la place parce qu'elle réussit à mélanger sensualité et langage des affaires parce qu'elle le maîtrise beaucoup plus que son frère, son demi-frère. Et Anders va survivre à Dina aussi parce qu'il accepte d'une part parce que ça ne lui intéresse pas de s'occuper de la gestion du domaine, mais aussi, et ça c'est très important pour Dina parce que pour le type de communauté, elle a la bénédiction d'un homme qui reste en même temps toujours hors du domaine. Juste des petites citations sur la manière d'être vue, parce qu'elle est vue, décrite. D'un côté, elle est décrite comme femme sensuelle, surtout liée par le véhicule, qui c'est très important. Elle est tout le temps comparée à des éléments de la nature, à des animaux, dans une manière négative ou positive, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il la construit d'un côté vasement. Mais toujours parce qu'elle part d'un regard de l'homme sur la femme. De l'autre côté, elle est aussi décrite comme un homme. Par exemple, je cite, elle était habillée d'un pantalon de cuir et d'une longue veste sans trait. Si ça n'avait été ses cheveux, on aurait pu de loin la prendre pour un homme. Elle était très grande pour une femme. Autre petite citation, Dina avait joué aux cartes et même fumé la pipe en compagnie de ce type sale et mal rasé. Elle ne devrait pas le faire. Elle pouvait se montrer aussi grossière qu'un charretier, aussi compliquée qu'un juge d'instruction, sans parler de l'affichage de sa féminité, tout à fait étrangère aux us et coutumes des gens normaux. Elle promenait son grand corps ferme comme un jeune général. On revient souvent sur son corps imposant, d'une part pour indiquer sa diversité des femmes, et d'autre part pour souligner ses parties anatomiques féminines. Et leurs descriptions sont accompagnées donc de phrases, et la menée, je cite, d'elle un mélange d'odeurs d'écurie et d'eau de rose, et une froideur désintéressée qui attirait les hommes comme des mouches. Dans une autre scène, elle sent la bruyère, et dans une autre, l'agneau. On revient à la femme sensuelle parce que sauvage, personnification de la nature. Mais Dina, homme imposant et autoritaire, et la Dina, femme sensuelle et animale, sont racontées à la limite de ses représentations conventionnelles. Ses identités sont débordantes, grotesques, excessives. Après la mort de Jacob Gronelf, le domaine de Reisnes est géré par Dina grâce aussi à trois autres femmes. Mère Karen, la mère de Jacob, a voyagé partout dans le monde avec son mari, armateur aussi, qui disparaît en mer avec son bateau. Mère Karen a rejoint son fils, Jacob Gronel, avec sa riche bibliothèque et sa chaise à bascule. Dans la petite communauté, elle prend le rôle d'un juge ou d'un chef spirituel. Sage et au tempérament patient mais déterminé, elle trouve des solutions aux disputes et aux autres conflits humains. Elle seconde Dina dans la gestion du domaine et en étant la mère de l'ancien propriétaire, elle légitime elle-même Dina comme nouveau chef du commerce. En outre, c'est la seule qui peut raisonner Dina lorsqu'elle part d'un excès colère ou d'un ses délires hantés par les morts. Dans la cuisine, on trouve Oline. Elle est présente dans le domaine depuis la première femme de Jacob Ingeborg, la mère des deux demi-frères, Nils et Anders. Oline administre la maison des propriétaires et surtout la servitude. Elle se lie rapidement avec Mère Karen et joue un rôle similaire à celle de sa patronne chez les serviteurs. Enfin, Yastine, je l'ai déjà citée avant, c'est la femme de Lapone, retrouvée blessée seule par Dina au milieu de la nature. C'est très important, Stine, comme personnage, parce qu'elle est Lapone, donc elle est tout le temps vue comme une étrangère, mais elle est très grébouillarde, trouve toujours des solutions quand les autres ne savent plus quoi faire. Et donc, elle ne trouve pas un rôle dans la communauté, mais elle trouve plusieurs petits rôles. Et ça, c'est encore plus dérangeant pour la communauté qui préfère avoir des rôles fixes pour chaque homme ou femme. Et en outre, elle devient une confidente très importante pour Dina, au même niveau que Mère Karen. Dina, Stine, Oline et Mère Karen sont elles les nouvelles patronnes de Reisnes et ce sont elles qui représentent une communauté de femmes singulières dans un monde traditionnel androcentrique. Elles commencent à gérer un domaine dans l'absence des hommes pour le faire, puis elles se battent contre l'intervention d'hommes qui voudraient leur imposer un nouvel ordre masculin, surtout le père de Dina qui gère donc un domaine à côté, qui est commissaire de police et qui revient souvent à la charge jusqu'à à mourir parce qu'elle ne réussira pas à changer sa fille. Je reviendrai si je réussis après aux autres tomes. Maintenant, différentes variations de réflexion. Première, Monique Wittig. Dans Monique Wittig, On n'est nulle part femme, donc son point de départ, donc c'est Simone de Beauvoir, c'est l'un des petits essais qu'il y a dans la pensée straight, et définit le groupe naturel des hommes. Donc on est dans ce groupe naturel des hommes qui c'est à la base de la société androcentrique, et donc la femme elle n'est pas considérée comme un groupe naturel, mais c'est une déviance, une appartient à ce groupe. Donc elle propose. Monique Wittig, un groupe naturel lesbien. Donc on est dans la théorie, on n'est pas dans la très belle communication d'Adeline d'hier, on reste dans la théorie de ce groupe. Donc elle explique ce que ce groupe naturel lesbien, pour se former, pour agir, doit effacer l'homme, homme comme catégorie politique, mais en premier moment, il faut vraiment éliminer l'homme, parce que jusqu'à qu'il y aura l'homme, on restera toujours dans, parce que ce sera beaucoup plus simple pour notre société de revenir vers un regard androcentrique. Il y a au départ, il n'y a pas donc inversion des rôles, parce que là, les femmes d'un groupe naturel lesbien ont les rôles des hommes et des femmes. Donc on sort de la dichotomie homme-femme, masculin-féminin. Et après, ça commence la transformation. Et dans ce même essai, la préoccupation principale de Monique Wittig, c'est aussi comment une femme peut voir les femmes comme une classe. Surtout parce que du moment que, un peu comme dans ceux qui venaient dans la citation, qu'il y a les femmes et les domestiques au même niveau, pour elle, elle les met au même niveau en disant que dans la société androcentrique et hétéronormée, ils sont au même niveau que des serviteurs. Et donc, par contre, la classe des femmes doit prendre deux choses en considération. La possibilité de s'émanciper, dans quelque manière, en sortant surtout des rôles, des catégories politiques hommes et femmes, mais de l'autre côté, il doit toujours tenir en compte de ce qu'ils sont comme femmes, considérées dans la société où on est. Elle ne peut pas partir de zéro, parce que sinon, parce que c'est impossible, parce qu'on est quand même influencé par notre contexte. La dynamique à l'intérieur de Raisness, c'est la même, c'est similaire, parce que ils peuvent, ces quatre femmes, construire une communauté parce qu'ils ont éliminé tous les hommes. S'il y avait eu des hommes, ça aurait été, je parle dans les personnes qui décident, qui ont le pouvoir, et restent ces quatre femmes, et c'est pour ça qu'ils peuvent construire leur communauté. Et je retrouve, par contre, je vais vers plus à des discours plus féministes. Je pense là rapidement à trois éléments qui sont présents dans cette communauté. Premier, on a parlé avec Catherine Mavrikakis de Mainoff. Je pense à des études féministes sur les brigades rouges. Donc on est en Italie, année des plombs. Et surtout le fait que le point de vue des femmes en prison, qu'ils ont eu des perpétuités pour les meurtres qu'ils ont fait au sein des brigades rouges, que ça ne correspond pas du tout au point de vue des hommes brigadistes, parce qu'il y en a beaucoup de femmes et des hommes qui ont écrit leur biographie, mais ce n'est pas visible le côté femme. Je pense surtout au roman de Barbara Balzerani, qui est le roman, la fiction, mais qui s'est construit sur des faits. On peut dire que c'est de l'autofiction, qui a publié dans les années 98, qui a été presque censurée, pendant qu'il y avait Moretti, Okurcho, qui c'était parmi les fondateurs, et que par contre, eux, ils ont pu avoir un certain succès en parlant des Brigades Rouges. Dans les écrits des femmes, donc des femmes brigadistes, terroristes, ils parlent tout le temps que pour elles, le fait d'entrer dans une action politique, de violence politique, c'était une manière pour trouver une liberté d'action. Parce que c'était dans ces groupes, dans ces microcosmes, qu'elles avaient la possibilité de s'exprimer aussi par la violence, aussi par la gestion, par la stratégie, pour se sentir en action. Et donc je trouve que ça me faisait comprendre ce que fait Dina, ces meurtres, parce que elle avait aucune possibilité, par exemple dans le roman, d'exprimer son désir sexuel. Par contre, ces deux hommes principaux, Ils ont cette possibilité. Et il n'a pas la possibilité non plus de montrer son corps, c'est lié à différentes situations, et donc de choisir comment elle doit s'habiller, et de montrer donc son corps à travers une représentation. Mais si les deux hommes le peuvent le faire, si elle veut survivre, et si elle veut réussir à s'exprimer différemment, ou être en action différemment, elle doit les éliminer. Et je ne défends pas le fait de tuer, comme ça il ne faut pas se mettre à se tuer, tout ça, mais je parle de la dynamique de cette communauté. Autre élément, j'ai dépassé de beaucoup.
2 minutes.
J'ai dépassé de 2 minutes.
Il reste 2 minutes.
Pour arriver à 20 minutes? Ah ok, parfait.
Ah.
Autre deux discours, donc je me base par contre sur Monica Lanfranco, donc une journaliste féministe italienne. Donc elle, par contre, parle de deux caractéristiques qu'il y avait dans les groupes féministes des années, ce qui sont construits dans les maisons des femmes, par exemple, dans les années 70 en Italie, dans différentes villes. Et il y avait le fait de l'assistanat. Et de l'autre côté, le fait d'éliminer la différence entre secteur public et secteur privé pour indiquer les rôles sociaux. Là, je le dis en bref, les deux sont présents dans la manière qui gère la communauté, les quatre femmes. Pour conclure, j'aurai deux conclusions, donc j'en choisis une. C'est lié au style. Si le roman fait passer, à mon avis, une idée d'Amazon ou des femmes qui doivent sacrifier des choses ou des personnes pour réussir à être libres, c'est aussi lié au style, à la qualité littéraire, parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment propres à la manière d'écrire de Basmo et au personnage de Dina. Le premier, c'est lié aux morts. C'est mort, la hante, mais la hante dans une conversation continuelle. Les morts, quand il y a Dina, donc du moment qu'elle est le personnage principal, on la voit tout le temps, il y a tous les morts qui s'accumulent et sont tout le temps présents, mais ne sont pas présents dans le fait qu'elle va en délire complet ou qu'elle se sent coupable, mais elle est en dialogue avec ses morts. Donc il y a cette dimension des morts qui est là. De l'autre côté, c'est le rapport avec la nature. Pour indiquer avec différentes fonctions positives ou négatives dans la construction des genres, il y a la nature qui les présente, qui modèle les gestes, la manière de décrire les actions des personnages. Et troisième élément, c'est la nature, c'est la musique. Du moment qu'il y a la musique entendue vraiment comme art, et qui est quelque chose d'étranger à cette petite communauté, ça change aussi la manière de raconter, de décrire les scènes de la réalité, parce que ça, d'un moment à l'autre, elle utilise vasement des formes peut-être plus poétiques. Et autre chose, il y a des petits paragraphes de Dina, où Dina parle à la première personne. Donc il y a la description, la troisième personne, d'une scène. Après, on a Dina qui fait « Je suis Dina » et raconte comme si c'était des hallucinations, en mélangeant beaucoup d'autres niveaux. Et par analogie, il me semble que s'il y a un brouillage des rôles sociaux ou politiques des hommes et des femmes qui s'est construit peu à peu dans le texte, est dû aussi parce qu'il y a un brouillage des genres dans le type vraiment de l'écriture de l'écrivaine, et que c'est ça qui s'apporte, qui ça permet de suivre la transformation de la dynamique interne de la communauté dans les trois premiers tomes. Et je m'arrête là. Merci.